Radio Okapi. Oh, Okapi.
Présenté par Belinda Boussouma, voici le sommaire. 28 millions de Congolais désormais en insécurité alimentaire, alerte le programme alimentaire mondial PAM, situation consécutive à l'augmentation du prix des denrées alimentaires à cause de l'insécurité dans l'est du pays. Le PAM dit intensifier ses efforts, mais l'assistance ne suit pas le rythme des besoins croissants, dit-il. Au lendemain de l'effondrement d'un immeuble au quartier Bangkok à Bunia, on compte 3 morts et 12 rescapés sur 30 ouvriers. Parmi eux, 7 élèves stagiaires, dont un reste introuvable, plaident ses parents. Entre-temps, les recherches se sont arrêtées ce samedi matin. Et puis, l'invité ce midi, Dr Foreman Mabala, directeur général de l'hôpital général de référence Jason Sendwe à Lubumbashi. Il nous parle de la réhabilitation de cet hôpital, la plus grande structure hospitalière dans le Grand Katanga. Madame, Messieurs, bonjour. L'ampleur des déplacements des populations provoqués par l'intensification du conflit en RDC pousse l'insécurité alimentaire à des niveaux critiques, avertit le programme alimentaire mondial PAM. Cette situation exacerbe la réponse humanitaire déjà mise à rude épreuve en RDC et dans les pays voisins. Cette agence onusienne parle de 28 millions de Congolais désormais en insécurité alimentaire. Le PAM dit intensifier ses efforts pour que l'aide vitale parvienne aux communautés déplacées. Cependant, l'assistance ne suit pas le rythme des besoins croissants, dit-il. Le condensé de ce rapport avec vous, Ronéline Tibonera.
Selon le programme alimentaire mondial, le nombre de personnes en insécurité alimentaire aiguë dans le province de l'Est, à savoir Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu et Tanganyika, est passé de 6,6 à 7,9 millions, ce qui fait un cumul de 28 millions de Congolais affectés par l'insécurité alimentaire aiguë, dit l'EPAM. De ces statistiques, il ressort que plus de 92% de ménages au Nord et au Sud Kivu sont touchés par cette crise alimentaire. Une situation qui s'explique par l'augmentation du prix des denrées locales à cause de l'insécurité qui entrave le route commerciale et l'accès au marché. La production alimentaire dans le Grand Nord du Nord Kivu, un centre agricole clé, est gravement perturbée. Toujours d'après les PAM, cette insécurité alimentaire touche également près de 140 000 Congolais qui ont fui vers les pays voisins au cours des 4 premiers mois de 2025. Femmes, enfants et personnes âgées sont le plus vulnérables dans les sites de déplacement surpeuplés. En réponse à cette crise, le PAM déclare avoir assisté environ 1,1 million de personnes dans le province de l'Est entre janvier et mars 2025. Cependant, l'insécurité et la pénurie alimentaire et la fermeture de l'aéroport de Goma sont les principaux défis auxquels fait face le programme alimentaire mondial actuellement.
Par ailleurs, le contexte actuel que traverse le pays expose la population à diverses maladies cardiaques et métaboliques, notamment, alerte un acteur de la société civile du Nord Kivu. Pour lui, le nombre des morts subites, la séparation des familles, le changement brusque du mode alimentaire sont quelques exemples éloquents qui illustrent et traduisent le traumatisme et le stress que vivent au quotidien les habitants de la partie Est, notamment. Il propose des consultations précoces et l'installation des cliniques de proximité pour détecter les cas éventuels de dépression. Il est nécessaire et urgent de développer une résilience prophylactique et le renforcement de la solidarité nationale et internationale pendant cette période, propose Vicar Batundi. On l'écoute.
Nous constatons que la situation devient de plus en plus alarmante. D'abord, nous observons la perte de capitaux pour les commerçants et les entrepreneurs qui accumulent aussi des dettes. La séparation des familles pendant plusieurs mois, les changements brusques du mode alimentaire, mais également il faut noter le fait que les réseaux sociaux de la RDC sont inondés par des informations toxiques, des cas de torture, des tueries, kidnapping, et cela expose la population aux maladies. Et donc, il y a nécessité de développer une résilience, renforcer la solidarité nationale et internationale pour nous soutenir mutuellement pendant cette situation difficile. Il faut organiser des causeries familiales couplées à la prière vespérale. Il faut rire aux éclats, même à l'occasion des rires. Mais la solution la plus durable est d'amener la paix la plus durable.
Cet acteur de la société civile conseille à la population de ne pas considérer la souffrance comme un mode de vie, mais plutôt de développer une certaine résilience. Revenons sur l'effondrement d'un immeuble à Bounia cette semaine. 3 personnes sont mortes et 12 autres sorties vivantes des décombres de l'immeuble des 3 étages qui s'est effondré le jeudi au quartier Bankoko. Les recherches d'éventuels survivants par les casques bleus de la MONUSCO et d'autres équipes de secouristes se sont clôturées ce samedi matin. Cependant, certaines familles dont les membres sont jusque-là à portée disparue plaident pour la poursuite des fouilles. Isaac Remoyope, qu'en est-il?
Les casques bleus de la MONUSCO et leurs engins, dont 3 chargeuses et une excavatrice, ainsi que l'équipe de secouristes de la Croix-Rouge, ont travaillé d'arrache-pied jour et nuit pendant 2 jours pour sauver des vies humaines. Les premiers jours, 6 personnes ont été extraites vivantes des décombres et 6 autres vendredi vers 16 heures. Tous ces rescapés qui sont blessés ou fracturés ont été acheminés d'urgence dans des structures sanitaires locales. Les bilans provisoires s'établit à 3 personnes mortes et 12 rescapés. Tous les engins ont été retirés ce samedi matin du chantier. Cependant, certaines familles des disparus sont rassemblées au chantier pour exiger la poursuite des travaux dans l'espoir de retrouver les corps de leurs membres. Les parents d'un élève stagiaire de 14 ans.
Ils ne pouvaient pas suspendre les travaux comme ça pendant que les corps de victimes sont encore là. Ils devraient dégager progressivement des débris jusqu'à ce que les terrains restent vides. Notre enfant est là, sous les décombres. Son collègue qui est sorti vivant affirme qu'il l'a vu. Il était assis. Il est là, il est déjà mort.
Le nombre des disparus n'est pas connu. Selon les rescapés, ils étaient au total 30 ouvriers, dont 7 élèves stagiaires, des maçons, soudeurs et électriciens. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, Tropenbos RDC sensibilise les acteurs étatiques et les organisations de la société civile sur le respect des droits des peuples autochtones et des communautés locales en matière de CLIP, entendez, consentement libre et informé au préalable. Une centaine d'acteurs ont pris part à cette activité dont l'objectif est de renforcer leurs capacités afin de s'assurer du respect des droits des communautés locales. Celles-ci doivent être également informées des impacts socio-environnementaux avant la réalisation des projets. Explication de Jacques Moukonkolé.
L'organisation de cet atelier découle du constat des Tropenbos selon lequel les lois en matière foncière, minière et environnementale ne sont pas du tout appliquées ou ne le sont que partiellement par ceux-là qui sont censés les respecter. D'où la nécessité de les sensibiliser quant à ce. Félicien Moussengue, son coordonnateur, décrit les comportements attendus d'eux au terme de cet atelier.
Et avant toute cession de terre, avant l'exploitation, ils doivent préalablement demander ou solliciter les consentements des peuples autochtones. Les communautés locales, mais aussi essayer de faire des études à impact social et environnemental.
Ces études préalables à la réalisation de tout projet environnemental ne sont pas menées. Les risques ne sont pas non plus communiqués aux communautés locales. Or, ils sont réels et certains, comme l'explique Maître Patient Bisselengue, consultant en droit de l'environnement.
Aujourd'hui, il y a des problèmes sur les plans environnementaux. Quand, par exemple, il pleut abondamment, vous verrez que les eaux ne savent plus rouler normalement sur l'air libre. Habituel parce que les endroits interdits de construction, mais les gens construisent point qu'ils y rétrécissent les lits normaux des cours d'eau.
Conscients de leurs responsabilités, les acteurs étatiques promettent de changer le fusil d'épaule, comme l'a déclaré l'un d'eux, l'ingénieur Moïse Adjaotema de la coordination provinciale de l'environnement. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Pendant ce temps, les pays du bassin du Congo réaffirment leur engagement à soutenir la mise en œuvre de l'initiative Tropical Forest Forever, facilité pour la préservation et la protection des forêts tropicales. Le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, la Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo ont pris cette décision lors du dialogue régional organisé les 22 et 23 mai à Kinshasa. Ils ont reconnu le rôle essentiel de cette initiative ainsi que la nécessité d'un financement durable et équitable pour accompagner leurs efforts de conservation et de préservation de la biodiversité. Des précisions avec Blaise Ndongala Maenda.
En tant que propriétaire et gardien de la deuxième grande forêt tropicale humide du monde, les pays du bassin du Congo soutiennent les moyens de subsistance d'un nombre considérable de personnes, en particulier les peuples autochtones et les communautés locales. Après débat et réflexion, ils appellent à un nouveau mécanisme susceptible de combler le vide que crée le manque de modèles de financement à long terme pour soutenir la conservation des forêts tropicales. Pour la ministre d'État en charge de l'environnement, les pays du bassin du Congo ne doivent plus négocier en parent pauvre vu leur richesse environnementale.
Quand nous allons dans des programmes comme des institutions de Bretton Woods, on dit on va aider les pays pauvres. Alors qu'en réalité, nous ne sommes pas pauvres. Nous avons les forêts, nous avons les ressources en eau. Pourquoi ne pas considérer nos forêts, cette richesse-là, comme étant une caution? Par exemple, L'absorption de pollution par hectare, par tonne de carbone, ça coûte combien? On peut le quantifier. Par exemple, une biche, un okapi, un chimpanzé, un bonobo, à quelle valeur dans nos forêts? Et nous en avons combien? Les perroquets gris.
Elle appelle par ailleurs les partenaires bilatéraux, multilatéraux et privés à travailler avec les pays du bassin du Congo en vue de s'assurer de la transparence de l'initiative tropicale Forest Forêt Vert Facility.
Direction le Kassai oriental. Parlons de cette visite surprise du vice-gouverneur de province hier vendredi à l'Institut Kalinda Mudishi dans la commune de la Kanchi à Mbujimayi. Au cours de cette visite, Augustin Kayembe s'est rendu compte des conditions d'études déplorables d'apprentissage dans lesquelles les élèves de cette institution scolaire sont exposés. L'autorité provinciale s'est assise sur un bidon pour suivre les enseignements. Le vice-gouverneur du Kassai oriental donne ici ses impressions au micro des journalistes de la RTNC Mbujimayi.
Ce que j'ai vu de mes propres yeux, j'ai failli couler de larmes. Les élèves qui étudient sous les arbres, assis sur le morceau de pierre, vraiment les conditions dans lesquelles les enseignants dispensent les cours aux élèves, ça fait très mal. Alors que le chef de l'État a mis une grosse enveloppe ici pour la construction de cet institut à Kalinda Mudishi. Mais des travaux qui n'ont pas fini jusqu'à ce jour ici. Je pense que de mon côté, en tant qu'autorité provinciale, j'ai le devoir de m'investir, de m'impliquer le plus tôt possible pour qu'on relance les travaux de finition afin que ces enfants recouvrent leurs conditions initiales d'étudier. Les élèves, je les encourage. Les encourager, les réconforter qu'ils ne sont pas abandonnés par l'autorité provinciale, encore moins par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il pense toujours en nous. Ce qui prouve à suffisance que cet édifice, il n'y en avait pas avant. C'est de sa propre volonté, son implication, que nous allons bénéficier de ces ouvrages ici, de grande envergure. Alors les élèves doivent se rassurer réellement que cet institut, les travaux vont terminer demain et ils vont étudier dans de meilleures conditions.
Signalons que les travaux de construction et modernisation de cette école ont débuté en 2021 avec le financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI dans le cadre du projet présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités. La division des affaires sociales, en collaboration avec les différentes structures qui luttent pour la protection de l'enfant, a lancé hier à Beni une campagne de lutte contre l'exploitation économique des enfants. Pendant cette campagne, des équipes vont sillonner les différents quartiers de la ville pour identifier les différents milieux où sont utilisés ces enfants. Objectif, lutter contre le phénomène des enfants mendiants et autres qui sont en conflit avec la loi. Dans un mémorandum lu et remis au maire de la ville de Beni, Alex Kigoma, responsable de la division des affaires sociales dans la ville, revient sur quelques recommandations, propos recueillis par Guylaine Kassassia.
À travers les transports de biens et de services, dans les transports de motos triporteurs, dont certains abandonnent l'école pour se faire exploiter au sein des groupes armés. Ainsi, ces enfants exploités sont exposés à plusieurs risques et créent même les sécurités routières pour non-maîtrise des codes routiers. La recommandation que nous donnons aux autorités de la ville est de traquer tous les agents conduits par les enfants, dans lesquels les enfants sont utilisés comme bombes, pour que les responsables répondent devant la justice pour l'intérêt supérieur des enfants. Les commerces ambulatoires sur toute l'étendue de la ville. Les enfants sillonnent toute la ville jusqu'à tard dans la nuit, exposant les enfants à plusieurs risques dont les viols, l'enlèvement, le kidnapping, le tamponnement, la consommation prématurée de l'alcool et stupéfiants, enlèvement et recrutement au sein des groupes armés. Recommandation, l'implication des autorités urbaines pour décourager cet abus fait aux enfants, apprenant un arrêté interdisant cette pratique sur toute l'étendue de la ville, au non-respect duquel les responsables contrevenants seront interpellés au tribunal pour enfants. Les enfants à rupture familiale dit autrement de la rue. Ces enfants se livrent au vol et aux menaces sur toute personne. Recommandation, l'implication de l'autorité urbaine pour traquer ces enfants et les mettre à disposition de la police et la protection de la foi, où ils seront écoutés, afin qu'ils donnent les adresses de leurs parents.
Habitants de Kinshasa, attention, la saison sèche s'approche et comme à l'accoutumée, durant cette période, un petit insecte noir, rouge et orange commence à faire son apparition dans plusieurs quartiers de la ville-province et des victimes sont déjà signalées. Il s'agit du Paederus, appelé communément Ekonda. Cet insecte d'environ 10 mm de long provoque des brûlures et des éruptions cutanées lorsqu'il est écrasé sur la peau. Nancy Atambo et Élise Kavira nous en parlent.
Faites attention aux Ekunda. Cet avertissement commence à être donné dans plusieurs foyers de Kinshasa. Inoffensif en apparence, ce petit coléoptère peut pourtant causer des irritations cutanées si par mégarde il est écrasé sur la peau. Docteur Kapiambabadi Banga, un professionnel de santé, nous en dit plus sur le paedérus.
Le paedérus, c'est un insecte, c'est pas une maladie. Donc c'est un insecte, un coléoptère. On le trouve souvent dans les zones tempérées et puis tropicales.
Les victimes, elles racontent leur calvaire. Rougeur, démangeaisons, brûlures, les lésions causées par le paedérus peuvent durer plusieurs jours.
Quand j'ai demandé à ma maman et elle m'a dit que c'est les Kunda, je pensais qu'on allait me couper la main parce que ça me faisait mal. Je sentais des brûlures et je n'arrivais pas à toucher la partie où ça m'avait brûlé. Ça s'est terminé quand j'ai appliqué du miel, puis ça s'est troué et puis c'est fini.
Pour ce qui est des précautions à prendre, Dr Kapiambabadi Banga recommande ceci.
Ce qui est recommandé, d'abord, c'est de ne pas écraser l'insecte. Cependant, si vous l'avez déjà écrasé, que vous remarquez que c'est l'insecte, il est recommandé d'aller rincer la peau immédiatement avec de l'eau.
Le paedérus étant attiré par la lumière, il est recommandé d'éviter de se placer directement près des sources lumineuses et de bien vérifier le linge, surtout exposé à l'extérieur.
Actualité internationale.
Au moins 7 migrants soudanais ont été retrouvés hier morts après que leur véhicule est tombé en panne et sont restés bloqués pendant des jours dans le désert libyen. C'est ce que rapporte un responsable des services ambulanciers. La voiture transportait 34 soudanais lorsqu'elle est tombée en panne après avoir franchi la frontière libyenne depuis le Tchad et s'être engagée sur un chemin désert souvent utilisé par les passeurs, a déclaré le directeur des services d'ambulance et d'urgence de Koufra. Ils ont été découverts dans les dunes de sable au bout de 11 jours après avoir manqué de nourriture et d'eau. Les 22 rescapés, dont 5 enfants, ont été transférés à Koufra, dans le sud-est de la Libye, pour des soins médicaux. 5 personnes sont portées disparues, mais la même source déclare qu'il y avait peu d'espoir qu'elles survivent à pied dans un vaste désert.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Dr Foreman Mabala, directeur général de l'hôpital général de référence Jason Sendwe à Lubumbashi. Il revient sur la réhabilitation de cet hôpital, la plus grande structure hospitalière dans le Grand Katanga. Le nouveau comité de gestion a introduit des innovations pour élever cet hôpital qui était dans un état d'abandon durant plusieurs années. Dr Foreman Mabala s'entretient avec Paulin Munanga.
Docteur Foreman Mabala, bonjour.
Bonjour, Paulin Munanga.
L'hôpital général de référence Jason Sendwe, que vous dirigez, est réhabilité. Est-ce qu'on peut affirmer que cet hôpital a repris son prestige d'antan, du grand hôpital dont personne ne pouvait s'en passer?
L'hôpital a été réhabilité de fond en comble sur tous les grands bâtiments imposants en étage par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le programme de 145. Et a été équipé sous l'égide du ministre national de la Santé, Roger Samuel Kamba. Et aujourd'hui, nous pouvons dire en toute fierté que l'hôpital progressivement reprend sa place, parce que nous l'avons perdu pendant un long moment, et avec tout ce que nous avons comme un plateau technique, et nous sommes en train progressivement de reprendre la place, et surtout dans les renforcements des capacités du personnel, nous pouvons nous sentir fiers dans les 3-6 mois qui suivent que l'hôpital pourra revêtir de sa plus belle robe.
Qu'est-ce qu'on a réhabilité exactement et quelle est la capacité de cet hôpital?
Il y a les bâtiments en étage de 4 niveaux et puis il y a l'espace pavillonnaire. C'est les bâtiments en étage de 4 niveaux qui a été réhabilité, donc du bloc opératoire, réanimation, les urgences et autres, et les réseaux hospitaliers. Aujourd'hui, nous comptons un effectif au moins de 180 lits au niveau du bâtiment à un étage, et au niveau de la taille basse, si on peut se le dire, de l'espace pavillonnaire, nous sommes à une affaire de 410 lits. Donc nous fonctionnons de la sorte pour essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Et parmi les innovations lors de la réhabilitation, aujourd'hui, nous avons l'oxygène qui est partout dans les chambres, l'oxygène mural. Donc tout malade peut avoir l'oxygène dans sa chambre, tout malade peut avoir les installations hygiéniques dans sa chambre. Il y a un confort qui est là et il y a un personnel qui est formé, qui est bien aguerri pour faire face à certaines éventualités.
Auparavant, il n'y avait pas de l'oxygène.
Il n'y en avait pas, et hormis le fait d'en avoir, aujourd'hui, nous produisons aussi de l'oxygène médical. Parce que bien avant, on produisait l'oxygène industriel. d'où certaines sociétés qui s'occupent de fournir dans les entreprises minières nous donnaient des bonbons d'oxygène. Mais cette fois-ci, nous avons l'oxygène médical pur mis à la disposition de nos patients.
Et avec ces conforts dont vous venez de parler, est-ce qu'on peut redouter que les coûts pour les soins donc est revu à la hausse? Puisque nous connaissons bien l'historique de cette structure hospitalière qui était abordable, même pour les personnes les moins nanties.
Nous restons sur la même lignée et Sendwe a toujours sa mission humanitaire et sociale. Je crois que l'accessibilité de toute la population est vraiment garantie. Et surtout, je dois vous apprendre que même dans les cas de la réhabilitation, nous avons bénéficié d'un scanner. Ce n'est pas aujourd'hui un scanner et c'est le scanner le moins cher de la
qui n'était pas là.
Qui n'était pas là depuis. Ce n'est n'avait qu'une radio. Et aujourd'hui, nous avons une radio numérique, nous avons un scanner et nous sommes en train de projeter que dans les jours à venir, nous aurons ce qu'on appelle l'IREM.
Docteur Foreman Mabala, qu'en est-il de l'approvisionnement en médicaments? Et est-ce que la gestion de ces médicaments est orthodoxe? Parce que cela présente souvent un sérieux problème.
On a reproché à Sendwe à l'époque de ce phénomène de pharmapoche, de pharmacie.
C'est-à-dire
qu'il y a des médecins, des infirmiers qui avaient leurs médicaments, qu'ils mettaient à la disposition des malades. Mais depuis notre avènement, c'est la pharmacie qui est le seul distributeur de médicaments au sein de l'hôpital. Nous avons trouvé un stock très amoindri, mais aujourd'hui, nous sommes capables de gérer même pendant 6 mois sans être approvisionnés à l'extérieur. Et c'est là, c'est grâce à l'esprit managérial de notre comité, et chacun essaye de donner le meilleur de soi-même pour que tout se passe dans de bonnes conditions.
Et le contrôle est rigoureux.
Le contrôle est vraiment rigoureux et surtout digitalisé. Donc, même tel que je suis là dans mon bureau, avec mon téléphone, je sais qu'il y a une plaquette de paracétamol qui vient de sortir et voilà.
Docteur Foreman Mabala, je vous remercie.
C'est plutôt moi qui vous remercie et tout le personnel de la radio Okapi qui ne cesse de nous accompagner.
Voilà, c'était là le directeur général de l'hôpital général de référence Jason Sendwe à Lubumbashi. Docteur Mabala répondait aux questions de Paulin Munanga. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jacques-Yves Bonlima Aouta, Jean-Claude Siala, Moana Makengo Swalou était à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres. À partir de 13h, retrouvez Grâce Amzati.